L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire sur Cube Radio pour parler d'économie, des entreprises du Québecing et de finances personnelles. Au menu de l'émission, nous avons des sujets qui ne vous laisseront pas indifférents. On va parler de richesse, un sujet qui suscite toujours des débats. Est-ce que les programmes d'aide financière de Justin Trudeau ont enrichi les Québécois? Ou ont-ils tout simplement permis qu'ils évitent la faillite de plusieurs entreprises et travailleurs du Québec? On va discuter d'une grosse acquisition en vue du Québecing. Un de nos fleurons s'apprête à dépenser plus de 25 milliards pour mettre la main sur un joyau du commerce de l'alimentation en France. Va-t-il réussir son pari, qui serait la plus grosse acquisition de l'histoire du Canada? Et on va jaser des nouveaux comportements pour l'achat en alimentation qui a vu le jour durant la crise sanitaire. Prêt à cuisiner, livraison de bouffe à la maison, retour dans la cuisine. Est-ce que ces comportements-là vont exister à la sortie de la crise sanitaire? Et bien d'autres sujets. Bon balado!
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
On le sait, des milliards ont été remis dans les poches des travailleurs et des entreprises là, depuis le début de la crise sanitaire. Justin Trudeau a mis en place des programmes, qu'on pense à la PCU, à la subvention salariale d'urgence pour les entreprises, pour garder au travail les employés. Ont-ils vraiment maintenu le niveau de revenus des familles? J'en discute avec notre chroniqueur régulier du Journal de Montréal, Michel Girard. Salut Michel.
Salut Yves.
Je te pose une question bien simple. Grâce à Justin Trudeau, peut-on dire comme la Banque Scotia, là, tu te rappelles le slogan, on est plus riche qu'on le pense? Est-ce qu'on est plus riche qu'on le pense pendant cette pandémie-là?
Ben, en fait, c'est bon. Collectivement, les chiffres, les statistiques révèlent qu'effectivement, quand on regarde au Québec, le revenu disponible là, des ménages québécois, le revenu disponible étant ton revenu brut moins les impôts et les taxes, en fait, c'est la somme d'argent qui te reste pour consommer ou épargner. Et à sa face même, on a constaté qu'au cours des trois premiers trimestres de l'année, les ménages québécois, imagine-toi, le revenu disponible a augmenté de 24 milliards de dollars par rapport au même trimestre de l'année 2019. Alors, on parle d'une augmentation quand même de 12 % de revenus disponibles. Et ça, alors qu'il y a deux trimestres, évidemment, où on a subi les conséquences économiques de la crise sanitaire de la crise économique. Alors, c'est évidemment très étonnant. Et puis ensuite, autre indicateur, imagine-toi qu'en termes d'épargne nette, les Québécois ont réussi à épargner près de 36 milliards de plus qu'au cours de la même période précédente de l'année de 2019. Alors, bon.
Est-ce que quand on dit qu'ils dépensent moins, c'est clair là, que moins de restaurants, moins de voyages, c'est probablement deux catégories de budget là, qui sont assez significatives dans le budget des Québécois.
Oui, sauf que ce qui est clair, c'est que le revenu disponible, lui, le 24 milliards, il ne peut s'expliquer que par le fait que les gens ont obtenu plus d'argent que par rapport à l'année précédente. Et c'est ça qui est étonnant. Là. On est en crise financière, on est en crise sanitaire, puis on s'est enrichi. Or, la seule explication que j'y vois, c'est grâce, entre guillemets, bon, évidemment, à la prestation canadienne d'urgence que Justin Trudeau a lancée à la mi-mars lors de la première vague de confinement pour lutter contre la COVID-19. Or, ça laisse entendre que les gens ont reçu 24 milliards de plus que lors de la même période précédente. C'est ça, évidemment, qui est très étonnant. T'sais, on s'attendait plutôt à ce que notre revenu disponible baisse. Normalement, en crise économique, ton revenu disponible baisse. Pas compliqué, là. Mais là, c'est l'inverse. Et c'est grâce au gouvernement fédéral. Et autre explication, évidemment, tu sais comme moi qu'une grande partie des gens, tu vois, concernant la PCU, tu as 2 millions de Québécois qui en ont bénéficié en passant.
C'est beaucoup.
Ben oui, c'est 2 millions. Et puis, Et puis, concernant maintenant la subvention salariale d'urgence qui a été versée toujours par le gouvernement Trudeau pour aider les entreprises à survivre, ben écoute, c'est quand même 10 milliards qui ont été versés aux travailleurs québécois là, qui ont gardé
le lien d'emploi avec leur entreprise.
Oui. Mais somme toute, on se rend compte qu'il y a eu un enrichissement. Et puis, c'est pas seulement au Québec en passant, hein, c'est dans l'ensemble du pays, dont ce qui laisse clairement entendre que tout ça, c'est parce qu'on a eu droit, on a bénéficié d'un programme extrêmement généreux de la part du gouvernement Trudeau dans le cadre de la COVID.
Michel, est-ce qu'il y a des catégories d'âge qui ont gagné davantage que d'autres dans justement cette aide financière que Justin Trudeau leur a accordée?
Oui, alors après analyse des statistiques concernant justement, mettons, au niveau de la prestation canadienne d'urgence, la PCU, mm-hmm. Quels sont les groupes de travailleurs, des bénéficiaires, là, tu sais, comme je te dis, il y a 2 millions de personnes, 2 millions de Québécois qui en ont bénéficié de la PCU. Finalement, je me suis rendu compte que les plus grands bénéficiaires, ce sont nos plus vieux, entre guillemets, travailleurs, à savoir les 65 ans et plus. Ce qui arrive, c'est que, imagine-toi que 69% de ceux qui travaillent, là, mm-hmm. qui ont bénéficié de la PCU, 69% de leur groupe, c'est énorme. Alors, donc, proportionnellement, ils se sont collectivement enrichis parce que leur revenu moyen de cette catégorie de travailleurs, le salaire médian, c'est-à-dire hebdomadaire, tu vois, était autour de 250 $, puis bon, ils ont reçu 500 $ par semaine. Bon.
On s'entend que ces gens-là de 65 ans et plus, c'est des gens qui sont pas à la retraite, qui sont encore sur le marché du travail, là.
Ben, c'est-à-dire tu peux être à la retraite, mais avoir un petit boulot, là, parce que faut se rappeler que le critère de base pour obtenir être admissible à la prestation canadienne d'urgence, le critère de base, c'était de gagner un revenu d'emploi de 5 000 $ ou un revenu de travail autonome de 5 000 minimum. Mmh. Or, donc, ce qui veut dire que tu peux avoir un petit travail d'appoint qui te ramenait cette somme-là, puis que, par conséquent, tu avais accès à ce moment-là à la prestation canadienne d'urgence quand celle-ci a été lancée par Justin Trudeau. Mmh. Or, et l'autre catégorie, ce sont les plus jeunes travailleurs, ça va les 15-24. En proportion de leur tranche d'âge par rapport à leur groupe, là, ce qu'ils représentent dans la population active qu'on appelle. Là. Mmh. Or, écoute, c'est 59% des jeunes travailleurs qui ont bénéficié de la PCU. Encore là, eux aussi, quand tu regardes ce qu'ils gagnent en tu sais, tu as beaucoup de temps partiel là, dans cette tranche d'âge-là. Alors, ils gagnaient, tu vois, un salaire moyen hebdomadaire d'environ de 216 à 380 $ semaine, puis là, ils recevaient 500 $ par semaine par l'entremise de la PCU. Alors, je cherche pas pourquoi on a eu des problèmes l'été dernier à trouver à combler
la main-d'œuvre.
Ben oui, on a eu des problèmes de main-d'œuvre. On cherchait des gens pour travailler. Mmh. Alors, je pense. Regarde, là, si à rien faire, on t'offre 500 $ puis que on t'offre une job qui te rapporte 280, tu sais. Alors, imagine-toi.
Hey Michel, il y a beaucoup de prévisionnistes là, en économie là, qui disent que, bon, là, les Canadiens ou les Québécois ont plus d'argent dans leur poche, compte tenu du fait qu'évidemment, ils ont moins dépensé. Le taux d'épargne est un peu plus élevé. Puis là, ils voient déjà l'idée que les Québécois, à la fin de cette crise sanitaire-là, c'est comme si la barrière va s'ouvrir. Là. Et là, les gens vont ouvrir leur portefeuille, puis là, ils vont commencer à voyager, vont dépenser dans des biens et services, etc. Est-ce que tu penses qu'on va retrouver un retour à les années folles des années 20 après la crise économique, quand les gens ont décidé que là, la crise est terminée pour se mettre à dépenser? Il y en a beaucoup qui pensent que il y aura une grosse reprise économique à la fin de cette crise sanitaire.
Bah, grosse reprise. Il va y avoir une reprise économique. Je ne pense pas qu'il va y avoir une grosse reprise économique. Il faut pas oublier que tu as quand même, tu sais, au niveau des biens, tu vois, bon, c'est sûr que là, la consommation a baissé d'une façon globale. Or, les gens qui sont, tu sais, les gens qui ont des revenus élevés, ils vont pas consommer plus que pense pas. Tu sais, bien, c'est sûr, ils vont se payer quelques voyages, etc. Mais est-ce que ça va être un gros boom? Je pense pas que ça va être un gros boom. Je crois que ça va être plutôt une reprise normale de l'activité économique. Or, puis on l'a déjà vu, hein, l'activité a repris. C'est sûr que quand tu regardes le deuxième trimestre, il s'était effondré. Alors, par rapport au premier trimestre, puis là, il y a eu une reprise, mais on n'a pas récupéré entièrement ce qu'on avait perdu. Mais cela dit, tu vois, on parle d'une croissance plutôt autour de 6% en 2021. Évidemment, là, on n'avait pas prévu qu'on commençait l'année 2021 avec un confinement. Donc, ça va être un peu inférieur comme croissance. Mais tu sais, c'est une bonne croissance, là, mais c'est pas si extravagant que ça. Là,
est-ce que tu penses qu'à la sortie de cette crise-là, on risque de voir des entreprises qui vont être plus amochées ou probablement que la subvention salariale va avoir permis de maintenir les activités puis une fois que le vaccin est arrivé, que la reprise, les activités reprennent à 100%, qu'on va voir une situation qui va être possiblement stable?
Ben, c'est-à-dire, c'est sûr que tu vas te retrouver... Pendant la crise, il va y avoir des faillites d'entreprises et il va y avoir plus, surtout au niveau de la PME, là, des petites entreprises encore plus. Tu sais, on regarde les commerces, là, c'est pénible ce qu'ils vivent. Alors, c'est sûr qu'il y a des secteurs qui vont en sortir plus éclopés que d'autres. Fait qu'on va perdre des entreprises, puis là, il va en avoir des nouvelles qui vont se créer. Maintenant, mais c'est sûr qu'on va sortir au niveau des entreprises. Plusieurs vont en sortir amochés, sinon tout simplement qu'ils ont des entreprises qui ont été forcées de mettre la clé sous le paillasson. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, tu sais, une crise, c'est une crise. Puis à chaque crise, tu as toujours des grands perdants. Puis ça va être la même chose cette fois-ci, il n'y a pas de doute.
Bon, ben Michel, on continue à te lire tout le temps dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Donc, c'était Michel Gérard, chroniqueur économique au Journal de Montréal, au Journal de Québec.
Yves Daou et Michel Gérard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez, enfin, vous mêler de vos affaires. Cube Radio.
On a appris que le géant des dépanneurs Couche-Tard était intéressé à mettre la main pour 25 milliards sur le géant de l'épicerie en France qui s'appelle Carrefour. Je vous rappelle que Carrefour, là, c'est le plus grand employeur privé en France. Puis déjà, il y a une valse diplomatique qui se mène. Le ministre de l'économie française, Bruno Le Maire, se dit vraiment peu favorable à cette transaction parce qu'elle mettra en danger la souveraineté alimentaire de la France. Alors, pour analyser la stratégie de Couche-Tard et qu'est-ce qui risque d'arriver dans la plus grande acquisition potentielle d'une entreprise canadienne à l'étranger, j'en discute avec Michel Nadeau, analyste financier et spécialiste du Québec Inc. Salut, Michel.
Bonjour, Yves.
Les actionnaires n'ont pas vraiment aimé cette initiative là, de la direction. On regarde depuis deux jours, le titre de l'action de Couche-Tard est en baisse. On parle même de presque 10%. Et celui de Carrefour en France qui, lui, prend de l'aplomb. Pourquoi cette transaction-là, selon toi, est mal perçue autant politiquement que financièrement?
Ben parce que tout le monde est un peu renversé par le geste de la direction de Couche-Tard qui a comme cible une chaîne surtout de grands magasins, de grandes surfaces, alors que Couche-Tard sont des dépanneurs à l'opposé. Deuxièmement, Carrefour est une firme hyper sophistiquée qui parie sur la transition alimentaire vers le frais, le bio, le local. Donc, c'est une entreprise qui a une culture très différente et qui est dans un marché avec des faibles marges. Alors que chez Couche-Tard, avec 70% de vente de pétrole et 30% de bière, des chips et des cigarettes, du tabac, c'est deux univers différents. Donc, une grosse bouchée avalée, c'est un fleuron français Carrefour. Et la réaction politique est un peu normale. Mais, par contre, il y a quand même des affinités, il y a quand même des côtés similaires. Carrefour est une entreprise multinationale. Elle présente 25%, c'est c'est en Argentine, au Brésil, 48% en France et le reste dans d'autres pays d'Europe. Mmh. Tous des marchés où Couche-Tard n'est pas. Donc, il y aurait une complémentarité et Couche-Tard a des dépanneurs, ce qu'on appelle là-bas des drives. Et donc, il y a du pour et du contre, mais c'est une bouchée énorme. Mmh. C'est un risque, comme un entrepreneur sait les prendre, qui s'appelle Alain Bouchard. Mmh. Est-ce qu'il a raison? C'est un risque énorme, 25 milliards de dollars dans un secteur. Par contre, il y a un problème chez Carrefour, c'est que ça ne va pas bien. Ils ont fait une grosse acquisition en 1999, ils ont acheté leur concurrent Continent, et depuis, le titre n'a cessé de dégringoler. Bernard Arnault, le grand patron de LVMH, est entré chez Couche-Tard à 57 euros, et les actions de Carrefour, et les actions de Carrefour valaient 17 euros aujourd'hui. Donc, le marché est surpris, la réaction politique est surprise. Par contre, le management de Carrefour est d'accord pour la transaction.
Oui, je vois ça.
Les milieux français des affaires sont d'accord pour la transaction, reconnaissant qu'il y a un problème de gestion chez Carrefour et que peut-être M. Bouchard pourrait y arriver avec Brian Assanash, là, son PDG.
Mais quand on regarde...
C'est important.
Quand on regarde le cheminement quand même de Couche-Tard, qui aurait pensé qu'une petite entreprise du Québec deviendrait le roi des dépanneurs à travers le monde? C'est peut-être un objectif qu'il a, parce qu'on sait très bien là, que bon, Alain Bouchard n'est pas fou. Il voit quand même que les stations essence risquent d'être de moins importantes dans les 20 prochaines années, 40 prochaines années, compte tenu de la voiture électrique. Il y a quand même un marché, il y a des consommateurs plus jeunes qui évoluent dans un environnement d'Amazon. On sait Amazon s'est lancé dans la bouffe, des magasins d'alimentation. Il y a peut-être une perspective aussi d'amener Couche-Tard à un autre niveau.
Oui, moi, c'est ce que je crois. C'est ce que je pense que M. Bouchard s'est aperçu que Joe Biden l'a dit, le pétrole, c'est fini à partir de maintenant. Donc, le président des États-Unis, lui, il se dit en 2050, il n'y aura plus de pétrole dans l'économie américaine pour les voitures, en tout cas. Donc, 70% des ventes de Couche-Tard, puis c'est pas vrai qu'on transforme ça en des bornes électriques, là, comme ça, 70% des ventes. Puis les produits de Couche-Tard, je l'ai mentionné, la bière, le tabac et les chips, c'est pas des secteurs très porteurs pour l'avenir. Donc, pour lui, il s'agit de faire un risque comme Laurent Beaudoin qui s'est dit à un moment donné, est-ce que je reste dans la motoneige, je vais aller dans le transport en commun, je vais aller dans l'aviation. Plus tard, son fils prendra des risques trop grands, mais la décision d'aller dans le transport en commun et dans l'aviation a été très bonne pour Bombardier. Donc, peut-être qu'on verra. Et le point, c'est que Carrefour est une belle marque. C'est une belle marque en France. Là. Évidemment, ils ont des concurrents allemands comme Lidl. Ils ont évidemment la coopérative de Étienne Leclerc. Donc, il y a une réalité, là, il y a des choses que pourrait faire, mais c'est un domaine, c'est pour ça que les analystes se sont stupéfaits. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère des grandes surfaces, des grands magasins rayons, qui, beaucoup, ont eu des difficultés, mais... Encore une fois, je vais souvent dans en France, j'allais, et puis en Polynésie, ailleurs, Carrefour est présent. Carrefour, c'est une très belle marque. Et là, comment Couche-Tard va améliorer, encore une fois, Carrefour n'est pas à la dérive, là, c'est rentable, ils font de l'argent, mais ils en font pas assez.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, actuellement, là, il y a une espèce déjà de vase diplomatique, comme on disait tantôt, le ministre de l'économie s'en mêle, ça ne me surprendra pas que Macron va peut-être en parler à un moment. Mais ce qui est intéressant, c'est le nationalisme économique qui est à géométrie variable. Quand tu regardes ce qui s'est passé ici, les Français, bon, il ne faut pas oublier que Airbus a mis la main sur le C-Series. Tu as quand même Alstom qui a mis la main, une multinationale française qui a mis la main sur Bombardier Transport. Tu as Michelin qui a mis la main sur une entreprise d'ici, là, Camso. Puis là, on voit le ministre Fitzgibbon qui, maintenant, est en train de faire des démarches à l'Élysée pour dire il faut faire en sorte de défendre Couche-Tard pour cette acquisition-là, alors que lui-même n'a pas fait cet effort-là quand il a voulu empêcher les multinationales françaises d'acheter nos entreprises d'ici.
Oui, ben c'est ça. On essaie de défendre nos fleurons. Évidemment, si supposons que Carrefour voudrait acheter Métro. Imaginez mm-hmm. ça, aujourd'hui, Carrefour voudrait acheter Métro. Ben, évidemment, M. Fitzgibbon aurait un autre discours.
Ben oui.
On essaye ce qu'on appelle des entreprises stratégiques. Mm-hmm. Les entreprises stratégiques, et pour le M. Le Maire, le ministre de l'Économie, Carrefour est une entreprise stratégique française. Évidemment, la souveraineté alimentaire, c'est pas un gros argument. Mm-hmm. Les Français vont acheter de la bouffe ailleurs, et puis évidemment, les gens de Bouchard ne feront pas de gros changements. Et M. Bouchard s'est engagé, et il offre 20 euros par action, il offre de maintenir le siège social à Massy, en banlieue de Paris, il offre de maintenir les emplois. Il promet 3 milliards d'investissements dans la modernisation de Carrefour. Donc, M. Bouchard a fait une offre qui est quand même attrayante et que les milieux d'affaires français sont plutôt d'accord. Le problème, c'est que Carrefour n'est pas bien géré. Et est-ce que M. Bouchard peut redresser la compagnie qui ne va pas à la dérive, encore une fois, mais qui pourrait être beaucoup plus rentable, selon lui? Et ça, c'est le défi qu'il pense être capable d'apporter, dégager davantage de cash flow pour justifier un prix de 25 milliards d'euros. Alors donc, c'est surprenant. Encore une fois, c'est un gros défi. Et peut-être que M. Bouchard, comme nous l'avons dit en début d'entrevue, est conscient que la formule du dépanneur n'a pas un grand avenir. Il veut doubler son chiffre d'affaires en 5 ans. C'est pas évident que toujours augmenter le nombre de stations d'essence, de dépanneurs reliés à la vente de l'essence, c'est peut-être pas une formule gagnante à moyen et long terme, c'est clair.
C'est beau, Michel. Écoute, on va suivre ce dossier-là qui risque d'avoir des répercussions à la fois à Québec et à Paris. Donc, merci. Donc, c'était Michel Nadeau, analyste financier et spécialiste du Québec. Merci, Michel.
Merci beaucoup, oui.
Au revoir.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous aux affaires. Cube Radio.
On apprend dans la chronique du journaliste Sylvain Larocque, qui écrit une chronique qui s'appelle « Dans l'œil du Québécois » dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, qu'un administrateur de Bombardier récréatif, là, qu'on appelle BRP, aurait vendu des actions. Donc, pour en parler, et évidemment d'autres nouvelles sur des transactions d'initiés puis ce qui se passe dans les pousses ou les jeunes startups du Québec, je reçois Sylvain Larocque, qui est journaliste et chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Sylvain.
Salut Yves.
Donc, ce qu'on voit, c'est que chez Bombardier Récréatif, il y a toujours de l'intérêt pour vendre et un peu s'enrichir.
Oui, il y a eu quand même beaucoup de transactions d'initiés chez BRP au cours des derniers mois. Il faut dire que le titre a vraiment explosé en 2020 avec tout l'engouement pour les motos marines, les quatre roues et tout ça. Et donc là, c'est pas n'importe qui, c'est l'administrateur principal de BRP qui s'appelle Michael Hanley, un ancien de la Banque nationale et de Alcan, qui vient de vendre pour près de 500 000 $ d'actions de BRP. Lui, en fait, il a vendu presque 80 % de ce qu'il y avait dans BRP depuis le mois de septembre. Alors, c'est quand même intéressant de voir que quelqu'un qui est l'administrateur principal d'une entreprise vend la quasi-totalité de ce qu'il y a dans cette entreprise-là. Alors, ça va être intéressant de suivre ce qui se passe avec BRP au cours des prochains mois.
On est toujours intéressé par les investissements de la Caisse. Évidemment, ils ont une filiale qui est spécialisée en immobilier et qui ont investi beaucoup dans les centres commerciaux. Mais maintenant, il y a un gros virage qui est fait vers ce qu'on appelle de l'immobilier logistique. Parle-nous donc de ça, ce qui se passe actuellement avec Ivanhoé Cambridge.
Oui, Ivanhoé Cambridge, ça m'a surpris ça parce qu'ils vont miser 400 millions de dollars US avec une firme hongkongaise qui s'appelle PAG pour lancer une plateforme d'investissement au Japon. Et comme tu le dis, c'est dans le secteur de ce qu'on appelle la logistique, mais en fait, c'est des entrepôts pour les Amazon de ce monde. C'est des entrepôts, comme on en voit de plus en plus au Québec d'ailleurs, là, pour livrer les produits qui sont commandés régulièrement sur Amazon. Ils appellent ça la livraison de dernier mille, donc c'est vraiment pour faire le dernier bout de chemin entre l'entrepôt et les clients à la maison. Donc, premier investissement majeur d'Ivanhoé au Japon depuis un bon bout de temps, parce qu'Ivanhoé n'est presque pas présent au Japon. Alors, c'est quand même intéressant de voir que, comme ici au Japon, il y a l'engouement pour la livraison à domicile et tout ça. Donc, Ivanhoé veut en tirer parti.
Cogeco a été beaucoup dans l'actualité récemment. Tu sais que bon, il y a eu un offre entre guillemets hostile de Roger pour faire l'acquisition de Cogeco. Mais là, on apprend qu'un gros actionnaire de Cogeco a vendu.
Oui, c'est un actionnaire qui s'appelle PSP Investissement. C'est un des plus gros investisseurs institutionnels à Montréal. C'est une société d'État fédéral. Il gère les caisses de retraite des employés de la GRC, des employés fédéraux. Et donc, eux, ils étaient le troisième plus gros actionnaire. Ils sont encore le troisième plus gros actionnaire de Cogeco. Et là, ils viennent de vendre pour 20 millions de dollars d'actions de Cogeco. Donc là, ils vont passer en bas de 10 % de détention de Cogeco. Donc peut-être que avec ce qui s'est passé, l'offre qui a été rejetée par la famille Audet là, de Altice USA de Rogers, peut-être qu'ils se sont dit que il n'y avait plus vraiment d'argent à faire rapidement avec Cogeco. Ils ont préféré s'en aller.
En terminant, on le sait, Power Corporation, avec sa division ou sa filiale Sagard, a décidé de faire un gros virage vers ce qu'on appelle tout ce qui est le secteur des finances. Or, aujourd'hui, c'est un autre pas dans cette direction-là.
Oui, c'est ça. Power Corporation, la filiale s'appelle Sagard. Ils faisaient du prêt aux entreprises, mais depuis plusieurs années en Europe, ils faisaient du placement privé. Donc, ils investissaient directement dans des entreprises, des PME, tout ça, pour faire croître ces entreprises-là et ensuite les revendre à profit. Ils faisaient pas ça au Canada et là, ils viennent de lancer un fonds pour faire la même chose au Canada, donc investir dans des PME québécoises, canadiennes. Et là, ils sont allés chercher quelqu'un qui s'appelle Marie-Claude Boisvert, qui est assez connue dans le secteur financier. Elle travaillait pour un fonds torontois qui s'appelle Clear Springs Capital Partners, un fonds de Toronto qui avait un bureau ici à Montréal. Donc, ça montre quand même l'ambition que Sagard va avoir dans le secteur du placement privé au Québec et au Canada là, au cours des prochaines années.
Sylvain, on continue à te lire, évidemment, dans le Journal de Montréal. Donc, c'était Sylvain Larocque, qui est journaliste et chroniqueur au Journal de Montréal, dans sa chronique « Dans l'œil du Québécois ».
Arrêtez de vous virer sur un dix scène.
J'ai eu mon trassou!
Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez « Mêlez-vous de vos affaires » avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
Le Journal de Montréal et le Journal de Québec a accueilli dans ses pages récemment un nouveau chroniqueur pour parler d'agriculture, de comportement dans l'achat alimentaire. Il s'agit de Sylvain Charlebois, qui est directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie à Halifax. Or, il me fait plaisir de le recevoir à sa première intervention à notre émission « Mêlez-vous de vos affaires ». Bonjour, M. Charlebois.
Oui, bonjour. Yves.
Bonjour. Dans votre première chronique dans le journal en ce début d'année, vous avez, vous êtes interrogé, sur les comportements des consommateurs à la fin de la crise sanitaire. Puis je vous cite, « Difficile de voir comment nous pouvons cuisiner davantage des tartelettes portugaises, le pain ou le vin, puis continuer à faire du commerce en ligne, puis faire toujours l'achat de trousses repas. » Qu'est-ce qui va se passer après la pandémie? Qu'est-ce qui va rester de ces comportements au niveau de l'achat alimentaire après la crise sanitaire?
Vous savez, Yves, c'est pas facile de regarder dans notre boule de cristal ces jours-ci. Il y a beaucoup de choses qui changent pratiquement chaque semaine. Mm-hmm. Mais il y a des constantes, par exemple. Il y a des phénomènes qui se passent là, qui vraiment faut considérer. Par exemple, on a appris récemment que la population de Montréal a diminué. La population de Toronto a diminué. La population de Vancouver a diminué dans les derniers 12 mois. Fait qu'on voit qu'il y a un mouvement vers les banlieues. Les gens recherchent l'espace. Ça veut donc dire que probablement à long terme, les gens vont travailler plus à la maison. Les gens vont probablement commander plus en ligne. Nous, on anticipe un changement assez important pour ce qui est du marché. Mm-hmm. Et évidemment, la filière agroalimentaire va devoir justement desservir ce marché-là complètement différemment comparativement avant la pandémie.
Mais quand tu regardes dans ta chronique, tu fais référence à quelques phénomènes. Je prends par exemple, tu pourrais nous parler de ça, toute la question du retour des collations. D'où vient ce phénomène-là?
Bien, c'est parce que depuis plusieurs années, quand on visite le CIAL à Montréal, par exemple, qui est probablement le plus gros show d'innovation alimentaire au Canada, là, on voit depuis quelques années, il y avait vraiment beaucoup de travail au niveau des collations. Parce que les gens... bougeait beaucoup, était toujours en transit, on voyageait beaucoup. Alors, on offrait aux gens des solutions portables, qu'on puisse manger en arrière un volant, en avion, peu importe. Mais là, en étant à la maison, là, ça change complètement la donne. Par exemple, les ventes de céréales le matin ont augmenté de 27 % cette année. Pourquoi?
Incroyable.
Les gens ont le temps là, de s'asseoir, de verser du lait, etc. Alors, la dynamique des collations, des mets va changer puisqu'on passe plus de temps à la maison.
Évidemment, il y a toute la question des fameuses marques maison. Là. On le sait, là, Compliment, d'autres grandes chaînes se sont lancées là-dedans. Est-ce que tu penses que ça, c'est un phénomène qui risque de continuer tout le temps, que ça va prendre l'expansion ou on est à la fin de ces marques maison-là?
Mais quand on compare le Canada à d'autres pays comme les États-Unis ou l'Europe, là, les marques maison prennent pas autant de place. Hein? Mais j'ai l'impression qu'on va voir plus de marques maison pour deux raisons. D'abord, les marges. Les marges sont plus élevées, là, donc les distributeurs vont vouloir faire plus d'argent. Donc, j'ai l'impression que les choix du président, Kirkland, Compliment, Sélection, toutes ces marques-là, là, j'ai l'impression qu'ils vont prendre plus de place. Et aussi, du côté de la consommation, mais c'est la deuxième raison, les gens vont rechercher des aubaines. Et souvent, ces produits-là sont moins chers. Et lorsque l'économie est un peu chancelante, c'est ce qu'on s'attend pour 2021-2022, ben, j'ai l'impression que ces marques-là vont être de plus en plus populaires.
Tu disais dans ta chronique que les consommateurs vont garder à se protéger, dans le fond, des prochaines pandémies ou des prochains virus. Là. Donc, des produits de plus en plus pour le système immunitaire.
Ouais. Ben oui, en fait. Parce que l'année 2021, c'est l'année internationale des fruits et légumes. Moi, j'ai l'impression que pour les prochains 12 mois, on va parler beaucoup de système immunitaire. Évidemment, on en parle beaucoup à cause du vaccin, là. Mm-hmm. Mais la meilleure médecine pour notre système immunitaire à l'année longue, c'est la nutrition, c'est l'alimentation. Alors, j'ai l'impression qu'on va mettre l'emphase, justement, sur les fruits et légumes, par exemple, pour aider les gens à améliorer leur système immunitaire, à rendre leur système immunitaire, disons, plus fonctionnel.
Mais pourtant, c'est le manger plus de fruits et légumes, ça veut dire que ça va coûter plus cher aux consommateurs parce que dans tes analyses, tu as quand même montré que les fruits et légumes, ça risque d'être un secteur, une catégorie d'aliments qui va être en forte augmentation.
Ouais, c'est la mauvaise nouvelle, là, c'est sûr. Il y a les viandes qui vont augmenter, il y a la boulangerie, mais aussi les légumes, effectivement. Vous savez, Yves, cette section-là du magasin, les prix sont tellement, ils fluctuent tellement, là, c'est difficile à prévoir, mais nous, on s'attend à une année particulièrement difficile pour les légumes. Là. Mais là, jusqu'à maintenant, le dollar canadien se maintient à 78 sous, puis c'est une bonne nouvelle. Alors, si le dollar se maintient à 78 sous pour un bon moment, là, les contrats à l'importation.
Évidemment, il y a eu un phénomène extrêmement important là, qui est dans l'imaginaire des Québécois. C'est toute la question de l'achat local, l'idée d'acheter québécois, autant au niveau des fruits et légumes, d'autres catégories de produits. Est-ce qu'on est vraiment capable d'offrir dans les marchés, dans les grands centres d'épicerie, là, vraiment de l'achat local qui permettra aux Québécois? Moi, je regarde encore, là, les bleuets sont du Pérou, les framboises sont du Chili. Est-ce qu'on va vraiment être capable de faire ce virage-là au Québec?
Il y a du travail à faire, surtout pour ce qui est des projets d'environnement contrôlé là, en agriculture, des serres, fermes verticales, on en a besoin. Les Québécois veulent des produits locaux, veulent même payer plus cher, mais on n'est pas nécessairement, c'est pas un réflexe pour les Québécois d'aller en magasin puis de rechercher des produits locaux parce que, bon, souvent on pense qu'ils coûtent plus cher. Ils coûtent pas toujours plus cher les produits, mais généralement, l'approvisionnement est un problème. Alors, il va falloir augmenter la production de ces produits-là à l'année, pas juste pour quelques mois comme les fraises en juin, juillet. Il faudrait peut-être créer des habitudes pour inciter les Québécois à rechercher ces produits-là.
En terminant, Sylvain, je veux te parler, c'est quand même fascinant, le retour au jardin puis la fin de la diète. Et pourtant, la diète, ça a toujours été un sujet extrêmement important. Pourquoi ça serait la fin de la diète?
Je pense que c'est la fin de la diète, c'est que les gens sont pas... On n'est pas là encore. Là. Mm-hmm. Il y a tellement de choses qui se passent avec la COVID. J'ai l'impression que les gens veulent pas y penser. Là. Je pense que tout le monde... Il y a beaucoup de gens qui ont gagné du poids là, depuis 10 mois. On parle de la COVID-15, là, le 15 livres. mais j'ai l'impression que par après, les gens vont recommencer à penser à leur propre santé. On parle beaucoup de santé publique, mais pas de santé personnelle, à part de la santé mentale, et c'est sûr, on est en plein hiver. Mais la santé physique, là, moi, j'ai l'impression que au printemps, ou une fois qu'on va avoir vacciné beaucoup de monde, on va peut-être mettre plus d'emphase justement sur la santé des gens et évidemment la perte de poids.
Sylvain, on va continuer à te lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. C'était Sylvain Charlebois, qui est directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université de Dalhousie à Halifax. Merci Sylvain.
Y a pas de quoi.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
La plupart des Québécois font appel maintenant au service de marché Good Food, là, ceux qui offrent ces boîtes de repas prêts à cuisiner. Les aliments sont livrés frais, il reste juste à suivre la recette. Alors, cette entreprise québécoise qui a été fondée en 2014 compte maintenant 306 000 abonnés partout au pays. Écoute, c'est en hausse de 33 % en un an. Ils ont augmenté leur revenu de 72 % au cours de l'automne. Et donc, pour discuter de leur plan stratégique et évidemment de cette entreprise-là, j'en discute avec son chef de la direction, M. Philippe Adam. Bonjour, M. Adam.
Oui, bonjour. Merci de nous recevoir ce matin.
Vous avez récemment eu un message publicitaire qui était diffusé un peu partout, ça s'appelait « Laissez tomber l'épicerie ». C'est un message qui était véhiculé avec l'objectif, évidemment, de prendre la place des supermarchés. Pensez-vous avoir vraiment ébranlé toute cette industrie-là des détaillants d'alimentation qui fonctionne depuis une décennie?
Oui, bien en fait, ça commence à changer. L'industrie évolue beaucoup, en fait, à travers le monde, là, puis notamment au Canada. Donc, c'est une industrie qui n'avait pas été chamboulée nécessairement par le commerce en ligne de façon significative, là. Dernièrement. Donc tu sais, au Canada, c'est une industrie, l'industrie de l'épicerie de 130 milliards. Puis maintenant, au niveau du commerce électronique ou des commandes passées en ligne, ça représente 5-6 milliards à travers le pays. Donc ça a été fortement accéléré avec la pandémie, le changement des habitudes des consommateurs. Puis justement, avant la pandémie, c'était autour de 1 milliard et demi. Là, on est plus près de 6 milliards. Puis c'est prévu d'augmenter à un taux très rapide, puis d'atteindre environ 25 milliards et plus dans les quatre prochaines années. Donc, c'est vraiment une industrie qui est en fort changement, avec des joueurs, comme vous dites, qui sont établis depuis longtemps, mais qui ne sont pas nécessairement des experts en commerce en ligne. Nous, ça fait 6 ans qu'on livre la nourriture périssable à des membres des familles à travers le Canada. Donc, on est devenus des experts avec notre plateforme en ligne. Puis, on a ajouté l'épicerie il y a peut-être un an et demi à nos boîtes repas. Donc, on est vraiment en train de prendre une place de leader dans une industrie qui est en fort changement, qui est l'épicerie en ligne, puis qu'il n'y a pas de leader clair en ce moment au Canada.
Mais vous offrez aussi quand même des produits marque maison qui sont offerts dans les grandes chaînes d'alimentation, non?
En fait, nous, effectivement, on a un modèle qui est un peu différent. Donc, on a un modèle où on a des produits d'épicerie en nombre un peu plus limité. Donc, si on va dans un gros détaillant qu'on connaît bien, on pourrait retrouver entre 30 et 40 000 produits. Nous, notre stratégie se base sur un nombre plus limité autour de 4 000 qu'on n'a pas atteint encore, qu'on est en train d'atteindre dans les prochains trimestres. Puis, là, effectivement, les produits sont sur notre marque maison. Donc, notre marque maison, ça nous permet de bien contrôler les recettes des produits, contrôler le marketing, l'emballage, mais aussi contrôler les marges. Donc, nous, on a une stratégie où on veut offrir le même produit que tu peux retrouver en épicerie à un rabais environ de 15 %. On vise 10 à 15 %, dépendamment des catégories. Puis ça, on est capable de l'atteindre parce qu'on offre les produits sous la marque Marché Good Food. Donc, on n'a pas à partager la marge de profit avec une autre grosse marque comme Procter & Gamble, par exemple. Donc, ça nous permet vraiment d'offrir des prix moins chers à nos clients tout en protégeant nous autres, nos marges à nous.
Pendant la pandémie, là, les gens ont eu le goût de retourner à la cuisine. On le sait, là, les gens font du pain, ils font des tartelettes portugaises comme le Dr Arruda. Ils sont tournés vraiment à la cuisine. Il y a même eu des pénuries de farine dans certains endroits, là. Est-ce que, dans le fond, vous avez peut-être gagné un peu sur la question du prêt à cuisiner, mais il y a peut-être un phénomène où est-ce que les gens retournent à faire de la cuisine. Est-ce que ça, c'est pas un danger pour vous?
Non, en fait, nous, on pense que c'est une excellente nouvelle. T'sais, effectivement, il y a eu un changement des habitudes des consommateurs. Donc, ils ont pris leur budget de restaurant, puis ils l'ont mis dans un budget d'épicerie, de cuisine à la maison. Puis c'est clair que pour une compagnie comme Good Food, on a été un peu propulsé dans le futur. Donc effectivement, les gens ont commandé plus de boîtes repas et ils doivent nourrir la famille des fois 3 repas par jour si les écoles sont fermées, les gens travaillent de la maison. Fait que ça a changé beaucoup les habitudes. Puis après ça, ce que vous dites au niveau de cuisiner plus eux-mêmes, nous, on offre des produits d'épicerie, donc on offre de la farine d'ailleurs. Donc, une de nos stratégies, c'est justement de s'assurer qu'on n'a pas de pénurie au niveau d'aucun des ingrédients. Là. Donc, c'est quand tu commandes en ligne puis tu reçois pas 25% de ta commande parce que c'est pas disponible, c'est assez difficile. Chez Good Food, on essaie d'avoir aucun produit manquant dans nos commandes. Donc, ça fait partie de notre stratégie. Mais nous, on pense que c'est un gros avantage pour notre modèle d'affaires, le changement des habitudes, qui est là pour rester. Il y a plusieurs études qui mentionnent que les gens vont retourner probablement moins au restaurant après la pandémie, après que le vaccin soit distribué complètement. Donc les gens vont continuer à cuisiner, vont continuer à commander des boîtes repas, mais aussi commander des produits d'épicerie. Donc, pour nous, on voit ça comme une très bonne nouvelle.
Évidemment, il y a un côté sensible auprès des Québécois actuellement qui est ce qu'on appelle l'achat local. Donc, l'idée de faire en sorte qu'on puisse acheter des produits qui sont fabriqués, assemblés, manufacturés, etc. au Québec. Dans le secteur de l'alimentation, pour vous, là, est-ce que vous cherchez vraiment à assurer que dans vos produits, il y a d'abord et avant tout des produits québécois dans vos aliments?
C'est clair. Pour nous, c'est une de nos forces depuis la fondation de l'entreprise. Donc, on a des relations avec environ 150 fermes locales. C'est sûr que maintenant, on a des usines à travers le Canada. Fait que quand on dit local, ça peut être dans la région de Montréal ou sur la rive sud, sur la rive nord, un peu plus loin au Québec pour nos clients du Québec. Puis après ça, pour nos clients de l'Alberta, ça peut être la vallée de l'Okanagan, puis nos clients de Vancouver aussi. Fait que, bref, tout ça pour dire que de local, pour nous, c'est important. C'est une manière de se démarquer. Nous, on a toujours voulu offrir un haut niveau de qualité de nos produits, puis une manière de le faire, c'est avec la fraîcheur des aliments. Puis comment tu veux t'assurer d'une fraîcheur des aliments, c'est t'assurer qu'ils voyagent le moins possible. Puis, tu sais, on a tellement de beaux produits ici au Québec, en Ontario, dans l'Ouest, donc on en profite énormément. Puis ça dépend de la saison, mais c'est sûr qu'en été, on peut avoir jusqu'à 85% de nos produits qui viennent de producteurs locaux.
Parlant, chef, évidemment, de la direction financière, là, votre entreprise est en bourse depuis 2017. En fait, c'était à cette époque-là, en 2017, c'était pour la première fois en 2 ans qu'il y avait une entreprise québécoise qui faisait son entrée à la bourse sur le TSX. Est-ce que ça a été une bonne stratégie pour vous autres d'aller en bourse pour se financer?
Oui, clairement. Nous, quand on est allé en bourse, peu de temps après, Amazon avait acheté Whole Foods. Mm-hmm. Puis après ça, ça avait chamboulé beaucoup le milieu alimentaire, épicerie à travers le monde, en fait. Donc les capitaux privés auraient été beaucoup plus difficiles à obtenir si on n'avait pas été public à ce moment-là. Donc le fait d'avoir été coté en bourse, puis d'avoir accès à des capitaux publics, ça nous a permis de continuer d'avoir accès à du financement assez facilement. Tandis que si on était resté privé, ça aurait été plus difficile. Puis nous, on est en forte croissance. Justement, on a été pendant plusieurs trimestres sur toute la bourse de Toronto, la compagnie qui avait la croissance la plus rapide en termes de revenus. Puis c'est venu avec des besoins d'investissement. T'sais, on est rendu avec 7 usines à travers le pays. On investit beaucoup dans la technologie, dans les produits. Donc on a levé quand même pas mal de capitaux là, depuis qu'on est en bourse, là, plus de 100 millions de dollars. Donc, ça nous a vraiment permis de s'assurer que notre plan d'affaires était bien financé. Puis vraiment, on n'a pas dû ralentir la croissance par un problème d'accès aux capitaux. Au contraire, là, en sachant que les investisseurs publics pouvaient nous financer, pouvaient nous aider à continuer notre croissance, ça nous a donné confiance. Puis on s'est pas retenu, si on veut.
Donc, évidemment, on va suivre votre entreprise sur la bourse, mais évidemment sur le secteur du marché de l'alimentation au cours des prochains mois, des prochaines années. Donc, c'était Philippe Adam, qui est chef de la direction financière chez Marché Good Food. Merci, M. Adam.
Merci, au plaisir.
Au revoir.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous de vos affaires. Cube Radio.
C'est la période des REER et du CELI. Et évidemment, il y a beaucoup de discussions autour des fonds de travailleurs. On le sait, les privilèges dont jouissent les fonds de travailleurs, à savoir les crédits d'impôt auxquels ils ont droit. Là. Donc, pour parler de tout ça, j'ai notre chroniqueur du Journal de Montréal, Daniel Germain, qui se spécialise en finances personnelles. Salut, Daniel.
Salut.
Tu nous rappelles là, dans ta chronique que les cotisations REER à un fonds de travailleurs donnent droit à d'importants crédits d'impôt. On parle de 30 à 35 dès le départ. Si tu n'étais pas à mettre ton argent dans ces fonds-là, ce serait tout un contrat de battre ces REER-là de façon ton REER ordinaire.
Oui, tout à fait. Disons que les contributions dans un REER d'un fonds de travailleurs comme celui de la FTQ ou de la CSN, on part avec 30 ou 35 clair dans les poches, donc il n'y a pas d'impôt là-dessus. C'est un gros avantage et ça prend des années et des bons rendements pour aller chercher ça. Je ne dis pas que c'est impossible, là, au contraire, mais il faut du temps et des bons rendements. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ma chronique d'aujourd'hui. Je me suis attardé à certains calculs avec un spécialiste. On voulait évaluer quel rendement supplémentaire ça prend dans un REER ordinaire pour rattraper un REER qui part avec une avance de 30%. Et ça prend quand même des rendements élevés et ça prend beaucoup de temps. Et c'est les résultats auxquels on est arrivé. Par exemple, si le fonds de l'FTQ, par exemple, qui offre un crédit d'impôt de 30%, on imagine un rendement de 4%. Fictif, mais ça, c'est le rendement un peu plus élevé que le rendement de 20 ans du fonds de FTQ. Ça prend un rendement, avec un rendement de 6% dans un REER normal, il faut 20 ans.
20 ans
pour être capable de rattraper ça.
Incroyable.
Oui. Et donc, et 6% pendant 20 ans, inutile de dire que ça prend un bon gestionnaire de portefeuille parce que c'est 6% année après année composé, après des frais. Donc il faut être bon à la bourse. Cela dit, écoute, on ne sait pas c'est quoi les rendements à venir du fonds des FTQ. Dans les années 2000, en 2000 et 2010, les rendements du fonds des FTQ étaient de 0,06%. C'est pour ça à cette époque-là que les conseillers nous disaient écoute, mets de l'argent dans les fonds de travailleurs juste quand tu es près de la retraite parce que les rendements sont pas assez bons, mais tu vas avoir ton 30%. Mais depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, les rendements sur 10 ans sont de 7%.
Puis le dernier, le rendement, c'était à 11%.
Oui, c'est des rendements assez élevés, mais il faut dire que aussi, comme ils ont eu une grosse drop à la fin des années 2010, ils ont profité d'un rebond de l'économie dans les années suivantes. Mais on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans les années à venir, là, avec l'état de l'économie, dans les PME. On sait que le fonds investit beaucoup dans les PME du Québec. On verra ce que ça va donner, mais toujours est-il que quand on part avec 30% qui est garanti, lui, c'est sûr que tu l'as ton 30%. Alors que la bourse te garantit rien. Je trouve que ça reste quand même des bons placements. Mais bon, il n'y a pas juste du bon non plus.
Bien là, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages. Écoute, déjà au niveau du rendement, puis c'est quand même intéressant. Tu sais, attendre 20 ans pour avoir un rendement similaire. Mais y a-tu des inconvénients à mettre tout son argent dans les fonds de travailleurs
D'abord, il y a des limites. On ne peut pas mettre tout son argent dans les fonds de travailleurs. On peut juste mettre 5 000 $ dans un fonds de travailleurs par année. Et puis, les fonds de travailleurs eux-mêmes sont plafonnés. Tu vois, le fonds Solidarité ne prend plus de cotisations forfaitaires depuis la semaine dernière. Le fonds est fermé pour la période REER 2020. Et c'est comme ça depuis quelques années. Cette année, ça a fermé un peu plus tard que l'année dernière. L'année dernière, c'était avant la fin de l'année. Il y a cet élément-là, mais aussi, c'est que ton argent, il est comme immobilisé dans le fond. Hein? On ne peut pas redéployer son argent en fonction de ce qu'on peut observer sur les marchés boursiers. Un investisseur n'aimera pas ça parce que ton argent est comme figé là. Mm-hmm. Quelqu'un qui est bon à la bourse et qui aime investir et qui aime suivre l'économie, il va toujours préférer se passer de ce 30%-là et aller battre, tenter de battre ça en faisant ses investissements lui-même. Et évidemment, on le veut aussi. Continue, peut-être ta question.
Là. Non, mais moi, je voulais juste te revenir sur peut-être une idée. Là. À un moment, ça avait circulé l'idée que la Caisse de dépôt, qui est quand même le bas de laine des Québécois, là, il y a les fonds de travailleurs, mais pourquoi on n'aurait pas un exemple de fonds de l'indice de la Caisse où les Québécois pourraient mettre de l'argent là-dedans et avoir un crédit d'impôt, puis profiter aussi des rendements que la Caisse offre? Ce ne serait pas une bonne idée, ça, d'avoir un fonds Caisse de dépôt?
Ben, en fait, on profite déjà d'un fonds de caisse de dépôt avec le régime de retraite, la Régie des rentes du Québec. Notre argent est investi à la caisse de dépôt. Si on voulait en plus
en mettre plus,
en mettre plus dedans avec un crédit d'impôt, ben, en fait, il faudrait que le gouvernement fédéral et que le gouvernement provincial soient d'accord à offrir un crédit d'impôt sur des contributions dans un fonds pareil. Inutile de dire qu'en ce moment, je pense pas que les gouvernements vont faire des cadeaux fiscaux à une époque où ils vont vouloir chercher des revenus. C'est étonnant. Mm-hmm. Mais c'est sûr que ce qui est bien avec la caisse de dépôt, c'est qu'il investit à la bourse, il investit dans les infrastructures, il a accès à des actifs que nous, le contribuable ou le petit épargnant, auquel on n'a pas accès. Mais c'est une question, c'est une bonne question. Et peut-être que ça reviendra un jour quand les finances publiques iront bien.
Daniel, je veux te revenir sur ta chronique de cette semaine touchant le pourboire à la livraison à la maison, qui était une chronique très lue. Rappelle-nous le fond de ton idée sur la question des pourboires à la livraison.
Ben, en fait, moi, je suis toujours dans les pourboires à des livreurs. Je n'ai jamais su combien, par contre. Et l'idée de cette chronique-là m'est venue quand j'ai commandé un repas, des repas pour la famille par Internet qui a été confirmé par téléphone. Et le type au téléphone me dit « Combien voulez-vous donner en pourboire aux livreurs? Mm-hmm. » Et je me dis « Mon Dieu, comment on donne aux livreurs? Ben, » en fait, je donne un truc au hasard à chaque fois. Et là, je suis allé voir et comme on commande beaucoup, tout le monde commande des repas en livraison, je me suis dit que ce serait un bon sujet pour la période. Donc, ce que j'ai cru comprendre, moi, en fait, c'est qu'il faut donner 10% de pourboire de la valeur de la facture aux livreurs. Mais c'est des livreurs qui sont employés des restaurants, qui sont des employés, qui sont payés au salaire minimum par un restaurant, et qui se font dire par leur employeur qu'il va avoir du pourboire pour compléter ta rémunération. Mais à travers tout ça, il y a les DoorDash et les Uber Eats et tout ça, qui travaillent, c'est vraiment un autre modèle, où ils sont payés à la livraison, puis le kilométrage et tout ça. Et eux, si ça, je ne l'ai pas abordé dans le texte, mais souvent, il faut donner le pourboire avant de commander. Ils peuvent décider, donc le livreur peut décider de prendre ou non la livraison.
Autrement dit, quand quelqu'un vient de DoorDash ou de Uber Eats, tout ça, là, ce serait fou de leur donner du pourboire compte tenu déjà des frais astronomiques que chargent déjà ces compagnies-là. Là.
Bon, en fait, j'ai pensé à ça, puis effectivement, c'est chacun de donner du pourboire pour compléter une rémunération à quelqu'un qui est sous-payé par une multinationale qui déjà en prend beaucoup à les poches du restaurateur. Mm-hmm. Mais bon, il faut distinguer le livreur qui est dans une situation précaire et qui n'est pas payé grand-chose et la multinationale. En fait, moi, ce que je dis, si on veut éviter ce conflit moral, ce questionnement, c'est de ne pas passer par une application comme celle-là. Mm-hmm. Moi, je l'ai fait une fois dans ma vie. J'ai enlevé de mon téléphone. Et quand je peux, j'appelle, je vais chercher où je commande de la pizza ou du poulet avec les livreurs du restaurant, mais moins possible avec ces applications-là.
Parfait. Donc, merci. C'était Daniel Germain qui, on continue à te lire là, comme chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec au niveau des sujets de finances personnelles. Merci, Daniel.
Merci.